Chapitre 4 La méchanceté de la nature humaine. Dans le chapitre 3, nous avons déjà vu deux formes de mal qui caractérisent la profession chrétienne et dans lesquelles tout croyant, sans la grâce, est capable de tomber. Le chapitre 4 en présente cinq autres formes. Versets 1 à 3 Les passions non contrôlées. Citation de l'Écriture. D'où viennent les guerres et d'où les batailles parmi vous? N'est-ce pas de cela, de vos voluptés qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous n'avez pas. Vous tuez et vous avez d'ardents désirs et vous ne pouvez obtenir. Vous contestez et vous faites la guerre. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, afin de le dépenser pour vos voluptés. Fin de citation. Dans le chapitre 3, l'apôtre venait de parler de désordre et de querelle parmi ceux qui portent le nom de peuple de Dieu. Il demande maintenant « D'où viennent les guerres et d'où les batailles parmi vous ?» Il fait remonter les conflits parmi le peuple de Dieu aux convoitises du cœur trouvant expression dans les membres du corps. Pour satisfaire ses passions, la chair est prête à tuer et à se battre. Dans un sens littéral, c'est vrai du monde et de ses guerres. Dans un sens moral, si nous sommes résolus à exécuter notre propre volonté, la triste nature humaine rabaissera et écrasera tout ce qui se mettra en travers de l'accomplissement de nos désirs. Si ces désirs sont légitimes, il n'est pas nécessaire de nous battre entre nous pour les obtenir. Nous pouvons demander à Dieu de nous les accorder. Trop souvent, hélas, nous n'obtenons pas de réponse à nos prières parce que peut-être nous demandons avec le mauvais motif de satisfaire quelque volupté. Verset 4 L'amitié du monde. Citation de l'Écriture. Adultère. Ne savez-vous pas que l'amitié du monde est inimitié contre Dieu? Quiconque donc voudra être ami du monde se constitue ennemi de Dieu. Fin de citation. Ces considérations sur la convoitise de la chair conduisent l'apôtre à nous mettre en garde contre l'amitié du monde, lequel offre toutes les occasions de satisfaire ses désirs. Le monde est caractérisé par la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Il a manifesté son inimitié à l'égard de Dieu en rejetant et en crucifiant le Fils de Dieu. Pour quelqu'un qui professe avoir la foi dans le Seigneur Jésus, entrer en amitié avec le monde qui a crucifié le Fils de Dieu équivaut à commettre spirituellement adultère. L'amitié du monde est inimitié contre Dieu. Notre attitude vis-à-vis du monde déclare notre attitude vis-à-vis de Dieu. « Celle qui vit dans le plaisir est morte en vivant », dit l'apôtre Paul. 1 Timothée 5, verset 6. Cultiver la complaisance mondaine produit une rupture entre l'âme et Dieu. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui, dit l'apôtre Jean. 1 Jean 2, verset 15. Quiconque donc voudra être ami du monde se constitue ennemi de Dieu, déclare l'apôtre Jacques. Versets 5 à 10 L'orgueil de la chair. Citation de l'Écriture. Ou pensez-vous que l'Écriture parle en vain? L'Esprit qui demeure en nous, désire-t-il avec envie? Mais il donne une plus grande grâce. C'est pourquoi il dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne la grâce aux humbles ». Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il s'enfuira de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs, vous qui êtes doubles de cœur. Sentez vos misères, et menez deuil, et pleurez. Que votre rire se change en deuil, et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. » Fin de citation. L'apôtre montre maintenant que derrière l'amitié du monde se cache l'orgueil de notre vieille nature. Désirant être quelque chose, la chair se tourne naturellement vers le monde pour essayer de trouver dans ses richesses sa position sociale et ses honneurs, ce qui satisfera son besoin impérieux de se distinguer. Toutefois, Ce n'est pas en vain que l'Écriture nous met en garde contre le monde. Et l'esprit qui demeure dans les chrétiens ne nous conduira pas à convoiter les choses du monde. Au contraire, il leur donnera la grâce nécessaire pour résister au monde et à la chair, suivant cette promesse, « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne la grâce aux humbles. » Si nous nous contentons d'être petits, et même de n'être rien dans ce monde, la puissance et la grâce pour résister à la chair et au monde nous seront accordées. Sept exhortations sont données maintenant pour répondre à l'orgueil de la chair. Elles sont toutes si contraires à l'orgueil naturel de nos cœurs que rien, sinon la grâce administrée par l'Esprit, ne nous permettra d'y répondre dans quelque mesure. D'abord, l'apôtre dit « Soumettez-vous donc à Dieu ». La grâce seule conduira à la soumission. Le sentiment de la grâce et de la bonté de Dieu donnera une telle confiance en Dieu que l'âme renonce avec bonheur à sa volonté propre et se soumet à Dieu. Au lieu de chercher à être quelqu'un et quelque chose dans le monde, le chrétien accepte avec joie les circonstances ordonnées par Dieu. Le Seigneur Jésus est l'exemple parfait de celui que sa confiance en Dieu a amené à se soumettre parfaitement à lui. Dans les circonstances les plus douloureuses, quand, par exemple, il était rejeté par les villes dans lesquelles il avait opéré ses miracles d'amour, il dit « Oui, Père, car c'est ce que tu as trouvé bon devant toi. » Matthieu 11, verset 26. Deuxièmement, Jacques nous dit « Résistez au diable et il s'enfuira de vous. » Nous soumettre à Dieu et être content de ce que nous avons nous permettra de résister à Satan qui nous tente et nous provoque par les choses de ce monde. Comme lors des tentations de notre Seigneur, le diable cherchera à nous séduire pour satisfaire les besoins de la vie courante, nos aspirations religieuses ou tout ce que nos regards pourraient convoiter. Mais si les tentations qu'il présente se heurtent à l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, ses artifices seront découverts et il ne pourra pas se maintenir contre la grâce de l'Esprit qui demeure en nous. Le Seigneur a vaincu Satan, et, dans sa grâce, nous a donné le moyen de résister au diable, qui doit alors s'enfuir. Troisièmement, il nous est dit « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » Si l'on résiste au diable, il est contraint de fuir, laissant l'âme libre de s'approcher de Dieu et de découvrir qu'il est tout près de nous. Si, comme le Seigneur dans sa marche parfaite, nous nous proposons toujours le Seigneur devant nous, nous expérimenterons, comme lui l'a fait, que l'Éternel est à notre droite et que, du fait qu'il est près de nous, nous ne serons pas ébranlés. Psaume 16, verset 8. S'approcher de Dieu est l'expression de la confiance active en lui et de la dépendance de lui provenant d'un cœur amené par la grâce à découvrir que son trône est un trône de grâce. Quatrièmement, Jacques dit « Nettoyez vos mains ». Pour nous approcher de Dieu, nous devons juger tout acte qui ne convient pas à sa sainte présence, ne mettant pas les mains à quoi que ce soit qui risque de nous souiller. Cinquièmement, purifiez vos cœurs, vous qui êtes double de cœur. Il ne suffit pas de se nettoyer les mains. Nous devons aussi juger le mal dans notre cœur. Les pharisiens pouvaient faire grand étalage de purification extérieure en se lavant les mains, mais le Seigneur doit dire « Leur cœur est fort éloigné de moi. » Marc 7, versets 3 et 6. Celui qui monte en la montagne de l'Éternel et qui se tient dans le lieu de sa sainteté doit avoir les mains innocentes et le cœur pur. Psaume 24, versets 3 et 4. Le cœur est le siège des affections chrétiennes. Celles-ci doivent être purifiées de tout objet incompatible avec la volonté de Dieu. Sixièmement, menez deuil et pleurez. Si nous sommes conduits par la grâce de l'Esprit de Dieu, nous ne pourrons pas être indifférents à la condition solennelle de ce qui prétend être le peuple de Dieu, et nous ne trouverons aucun motif de nous réjouir dans son triste état. Le chrétien a des joies que personne ne peut lui ravir, et il peut se réjouir dans la grâce de Dieu qui opère au milieu du mal des derniers jours. Mais le rire vain du monde religieux professant et les fausses joies par lesquelles il ne fait que se tromper lui-même, en croyant soulager ses misères, conduiront le cœur touché par la grâce de Dieu à mener deuil et à pleurer. Septièmement, l'apôtre dit « Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. » Nous avons bien de quoi être confus en pensant à la condition dans laquelle se trouve ce qui se prétend le peuple de Dieu, mais par-dessus tout, nous avons à nous humilier à cause de ce que nous découvrons dans notre propre cœur. L'humiliation doit avoir lieu dans la présence du Seigneur. C'est une œuvre intérieure par laquelle l'âme est rendue consciente de sa propre insignifiance face à la grandeur de Dieu. Notre tendance naturelle est de chercher à nous élever les uns par rapport aux autres. Seule la grâce nous amènera à nous humilier devant le Seigneur. Si nous le faisons, c'est lui qui nous élèvera au moment qu'il choisira. Au contraire, si nous cherchons à nous élever, nous serons abaissés et humiliés. On remarquera que ces sept exhortations impliquent que nous nous trouvons au milieu d'une vaste profession religieuse caractérisée par les maux contre lesquels nous sommes mis en garde. Bien loin de se soumettre à Dieu et de résister au diable, la chrétienté se rebelle de plus en plus contre Dieu et se soumet toujours davantage au diable. Insouciance et autosatisfaction la caractérisent. Elle poursuit gaiement son chemin au lieu de mener deuil et de pleurer. Et elle est fière de ses succès, au lieu d'être humiliée de son état. De toute manière, il n'est possible de répondre à ces exhortations que dans la puissance et la grâce de l'Esprit qui demeure en nous. Verset 5. En réalisant la condition dans laquelle se trouve la chrétienté professante, ceux qui sont conduits par l'Esprit seront gardés de s'enorgueillir. Ils seront amenés à s'humilier devant Dieu afin de trouver grâce au milieu de toute la ruine et gloire dans le jour à venir où ceux qui s'humilient maintenant seront élevés, car plusieurs qui sont les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Marc 10, verset 31. Versets 11 et 12, la médisance. Citation de l'Écriture. Ne parlez pas l'un contre l'autre, frère. Celui qui parle contre son frère, ou qui juge son frère, parle contre la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas un observateur de la loi, mais un juge. Un seul est législateur et juge, celui qui peut sauver et détruire. Mais toi, qui es-tu, qui juge ton prochain ? Fin de citation. L'apôtre nous a mis en garde contre l'orgueil de la chair qui cherche à s'élever. Maintenant, il nous avertit contre la tendance à rabaisser les autres en parlant mal contre eux. Médire des autres est une tentative indirecte pour s'élever soi-même. Aussi, la médisance n'est que la triste conséquence de l'importance que l'on s'attribue à soi-même. L'amour ne voudrait ni ne pourrait parler mal. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Mal parler indique donc infailliblement que l'orgueil et la méchanceté, plutôt que l'amour, ont trouvé place dans le cœur. En outre, celui qui médit de son frère a oublié la loi royale qui nous exhorte à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et la loi du Sinaï dit aussi clairement « Tu ne diras point de faux témoignage contre ton prochain ». Déjà, selon la loi, notre frère ne doit pas être déprécié, mais doit être un objet d'amour, et sa réputation doit être sauvegardée par la bouche de ses frères. Lorsque ce n'est pas le cas, cela signifie que nous ne vivons pas même au niveau de la loi. Il est alors évident que parler contre notre frère, c'est parler contre la loi. Au lieu d'accomplir la loi, nous agissons comme si nous étions au-dessus d'elle. Nous jugeons la loi plutôt que de laisser la loi nous juger. De plus, transgresser la loi, c'est mépriser le législateur et usurper sa place. Si notre frère a mal agi, le législateur peut lui-même absoudre ou condamner selon sa sagesse parfaite. Qui sommes-nous pour nous juger les uns les autres ? Devons-nous alors être indifférents au mal que nous pouvons constater chez les autres ? Loin de là. D'autres passages nous instruisent quant à la manière de le traiter, lorsque la triste nécessité s'en présente. Mais ce verset nous met en garde contre le fait de parler l'un contre l'autre. Celui qui médit de son frère ne s'occupe pas du mal et n'a pas l'intention de le faire. Il parle simplement contre son frère pour le déprécier. Puissions-nous nous souvenir, lorsque nous sommes tentés de satisfaire un peu notre malveillance vindicative en disant du mal de notre frère, que non seulement nous nous abaissons au-dessous du niveau chrétien, mais que nous n'accomplissons même pas la justice de la loi. Versets 13 à 17. La volonté propre et la confiance en soi. Citation de l'Écriture. À vous maintenant qui dites « Aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ou telle ville, et nous y passerons une année, et nous trafiquerons et nous gagnerons », vous qui ne savez pas ce qui arrivera le jour de demain. Car qu'est-ce que votre vie? Car elle n'est qu'une vapeur paraissant pour un peu de temps et puis disparaissant. Au lieu de dire « Si le Seigneur le veut, et si nous vivons, nous ferons aussi ceci ou cela. » Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos vanteries. Toute jactance pareille est mauvaise. Pour celui donc qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, pour lui c'est péché. Fin de citation. Finalement, l'apôtre nous avertit à l'égard de deux formes de mal qui vont souvent ensemble. La volonté propre, qui laisse Dieu en dehors de nos circonstances, versets 13 et 14, et la confiance en soi, qui nous amène à nous vanter de nos activités, versets 15 à 17. Sans s'inquiéter de Dieu ni de nos frères, la chair peut annoncer « Nous irons dans telle ou telle ville, et nous y passerons une année, et nous trafiquerons et nous gagnerons. » La volonté propre décide où aller, combien de temps rester, et ce qui sera fait. Ces projets ne sont pas nécessairement mauvais. Ce qu'il est, c'est le fait que Dieu n'a aucune place dans nos pensées. La vie de volonté propre est une vie sans Dieu. Nous en disposons comme si nos jours nous appartenaient. Nous oublions d'abord que nous ne savons pas ce qui arrivera demain, ensuite que notre vie n'est qu'une vapeur. Vu l'incertitude de nos circonstances et le caractère transitoire de la vie, notre sagesse consiste à marcher dans une humble dépendance du Seigneur et à subordonner tous les projets que nous faisons à la réserve « si le Seigneur le veut ». Hélas, la chair non seulement se vante de faire sa propre volonté, mais elle se glorifie dans ses vanteries. Aussi sommes-nous prévenus que si nous savons faire le bien, et que néanmoins nous refusions de le faire par volonté propre, nous péchons. L'apôtre ne dit même pas que faire le mal est péché, mais que ne pas faire le bien, quand nous savons ce qui est juste, c'est péché.